Bien, chers frères et sœurs, vous le savez sans doute, mais au milieu de nous, il y a en gros 80 fiancés qui bientôt vont se marier. Et c'est une joie de les recevoir, de les accueillir. Et c'est aussi pour eux un temps pour se dire, ben, comment allons-nous faire le pas de la famille dont je viens vers la famille que je veux créer ? Et l'évangile de ce jour nous aide justement à essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, nous avons tous commencé par être enfants, puis adolescents, et à l'adolescence, c'est vrai que c'est le temps où on est particulièrement sensible au conformisme. Il faut qu'on fasse partie d'une bande. Il faut qu'on ait une mode qui nous identifie à nos camarades. Voilà, tout ça, ça nous protège, ça nous permet d'exister. On parle même de tribus urbaines qui font que les uns et les autres peuvent s'intégrer. Et c'est pas si facile que ça de trouver petit à petit son propre chemin, sa propre personnalité, une vraie autonomie. Et justement, l'évangile qui nous dit aujourd'hui, tu préféreras le Seigneur à ton père et à ta mère, eh bien nous aide justement à mettre peut-être à distance ces milieux dont nous venons, les milieux effectivement des camarades, mais aussi les milieux familiaux, notre bande d'amis, si l'on peut dire d'un terme un peu trivial, peut-être nos clans. Et le temps des fiançailles, c'est le temps où on doit réordonner tout cela. Parce que si on ne le fait pas, si l'amour du père et de la mère, l'amour finalement de ses amis, etc., n'est pas mis à sa juste place, on ne saura jamais vraiment aimer. On ne s'ouvrira pas à l'universel. On aura un amour un peu naturel, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Alors, tu quitteras ton père et ta mère, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, parfois, il est bon que nous prenions conscience que dans notre famille, il y a des modes de fonctionner qui ne nous laissent peut-être pas complètement libres et en même temps qui nous gratifient. Moi, je pense à quelques familles où il y a beaucoup de connivence hein, entre les uns et les autres, mais tellement de connivence que finalement, c'est aussi compact qu'un bloc de béton et qu'un corps extérieur a du mal à y faire un peu sa place. Ou d'autres où il y a énormément d'humour, beaucoup de connivence intellectuelle aussi, mais un humour parfois si corrosif que tout ce qui passe à la portée est comme volatilisé en un instant, si ce n'est pas exactement dans les cadres de la famille ou des critères qu'elle s'est donnés. Voilà, eh bien il est bon que dans ce temps des fiançailles, nous prenions une certaine distance ou une certaine conscience peut-être des mimétismes que nous avons intégrés. Parce qu'à chaque fois, finalement, qu'il y a un peu un manque d'autonomie, la blague que je fais, ben finalement, c'est un peu l'écho de la culture familiale que j'ai reçue, même si elle peut manquer un peu à la charité, si elle peut écorcher tel ou tel. Tous ces manques d'autonomie, ce sont finalement des manques de charité. Parce que pour pouvoir aimer, il faut qu'il y ait quelqu'un. Et quand il n'y a personne, quand il y a simplement l'écho du milieu dont je viens, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité. Pour aimer, il faut de la personnalité. Et qu'est-ce qui va nous permettre finalement d'avancer sur ce chemin, de trouver notre vraie personnalité qui nous permettra d'aimer ? Eh bien, j'y pensais, c'est magnifique, le Seigneur nous donne un lieu où nous sommes libérés de tout ce qui met notre cœur un peu à l'étroit, c'est l'Église. L'Église, elle nous libère d'une appartenance sociologique qui nous conditionne trop. Vous vous souvenez, c'est saint Paul qui dit ça. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. La synthèse que l'Église a réalisée au cours de son histoire. Synthèse entre l'homme libre et l'esclave. C'est inimaginable pour quelqu'un de l'Antiquité. Un peu plus tard, synthèse entre le monde barbare et le monde romain. Seule l'Église pouvait faire ça. Et aujourd'hui, quelles sont les synthèses, les barrières que nous avons à dépasser et que l'Église nous permet de dépasser? Alors je citerai juste un fait de l'histoire de l'Église récent, mais qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu dernièrement le témoignage du père Zacharie. Il était recteur du petit séminaire de Bouta au Burundi. Il a relaté les derniers instants de 40 de ses élèves. Vous le souvenez, durant les années 90, c'est le terrible génocide du Rwanda qui s'est étendu aussi au Burundi. Et les jeunes de son séminaire sont en Hutu que Tutsi. Vous vous souvenez, ce sont deux ethnies qui sont opposées farouchement au point de s'entre-découper à la machette. Ces jeunes restent au séminaire durant le temps de cette guerre civile terrible. Et ils écoutent les nouvelles à la radio de la progression de la guerre. Et cette radio, en même temps, qui exaspère leur haine raciale entre eux. Et le père Zacharie, après chaque journée, convoque ses élèves dans une salle d'études et les fait parler. Énormément de tension entre eux. Mais elles peuvent s'exprimer. Et le père Zacharie, petit à petit, va introduire la fine pointe du message chrétien. Vous n'êtes plus qu'un en Jésus-Christ. Et puis un jour, le père Zacharie sent que la grâce est passée, qu'une réconciliation s'est opérée. Alors tout se précipite. Un matin, à 5h30, un groupe de 2000 rebelles Hutus pénètre au séminaire. Un soldat entre dans l'endortoir où sont les petits séminaristes. Il sort la Kalachnikov. C'est le massacre. Une bombe explose un peu plus tard. Certains survivants nous raconteront ces derniers moments. Mais les jeunes ont été priés quelque temps auparavant de se séparer entre Hutu et Tutsi, pour justement que certains soient épargnés et d'autres abattus. Tous se lèvent, tous se tiennent la main et disent « Nous sommes tous Burundais, nous sommes tous enfants de Dieu. » Et c'est à ce moment-là qu'a lieu le massacre. Voilà. Eh bien, ces jeunes ont vécu jusqu'au bout cette libération qu'a opérée l'Église en leur cœur. Libération de cette haine, de cette hostilité. Et aujourd'hui, à Bouta, un monastère est né qui compte aujourd'hui 14 membres qu'a fondé le père Zacharie pour perpétrer le souvenir de ces martyrs de Bouta, martyrs de la charité, martyrs de cette réconciliation, martyrs du dépassement de l'appartenance clanique. Cela est si beau, même si nous ne sommes pas exposés à des situations si extrêmes, bien sûr, mais c'est si beau de nous le rappeler. C'est notre appartenance à une Église, comme on disait en latin, multifaria, c'est-à-dire aux multiples visages, qui nous permet cette liberté intérieure. Une Église qui soit aussi profondément missionnaire, qui accepte toutes les réalités sociales, toutes les réalités raciales en son sein, voilà qui nous libère. Cela implique aussi cette libération, eh bien, de prendre notre croix, comme dit Jésus. Il n'est pas facile de rompre au bon sens ces solidarités naturelles, ou au moins de les relativiser. C'est parfois au prix d'une grande solitude affective, d'une vraie affirmation de sa personnalité. Et la tentation peut être grande alors en trouvant dans sa femme ou dans son mari justement le complément, celui avec qui on est ou celle avec qui on est parfaitement en phase. C'est encore une erreur. Il faut jusque dans le mariage assumer cette solitude et cette singularité qui nous permettra de continuer à aimer comme Dieu veut que nous aimions. Grande est toujours la tentation de la fusion et donc de la régression. Vous vous souvenez peut-être de ces vers trop connus, de ces lignes trop connues de Khalil Gibran, ce poète libanais. Que chacun de vous emplisse la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Que chacun donne à l'autre de son pain, mais ne mangez pas du même pain. Chantez et dansez ensemble, réjouissez-vous. Mais que chacun de vous soit seul. De même que sont isolées les cordes du luth, alors qu'elles vivent du même air, qu'ainsi soient vos âmes. Oui, la solitude nourrit l'amour et l'amour la solitude. Le mari doit permettre à la femme d'être davantage ce qu'il est et réciproquement. Il est bon de se poser la question en couple, mais qui est-il vraiment? Qui est-elle vraiment? Comment me mettre au service de sa singularité? Comment faire en sorte que je ne lui coupe pas les ailes, que je ne l'attache pas avec une chaîne? Ce sont des réactions parfois si naturelles. C'est ce magnifique petit épisode de la première lecture où la Shunamite souhaite accueillir le prophète et puis son mari a confiance en elle. Elle ne lui pose pas trop de questions. Et voilà qui construit cette petite maison sur le toit. Il aurait pu lui faire 1000 objections. Voilà, il l'accepte. Il accepte son initiative. Il accepte sa singularité. Chacun, dans le couple, dans une communauté aussi, a la responsabilité d'aider l'autre à être vraiment ce qu'il est. Pour que chacun puisse donner à l'Église et au monde le trésor de sa personnalité qui sinon manquera. Alors, soyons serviteurs de la liberté intérieure les uns des autres, et ainsi notre cœur sera au large, notre cœur pourra accueillir la présence de Dieu dans le monde, pourra grandir.